Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique Osons l'intime sur les ondes de Radio Royan Vercors. Nous accueillons chaque semaine des membres du collectif Féminin Naissance Royan Vercors pour cette chronique. Et aujourd'hui, c'est Claire et Stéphanie qui sont autour de la table, autour des micros. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Salut.
Et c'est Claire qui nous propose aujourd'hui une chronique qui va porter sur les violences éducatives ordinaires envers les enfants.
Absolument, les VEO aussi on peut les appeler et peut-être pour commencer je peux vous dire de quoi il s'agit. Donc ces fameuses violences éducatives ordinaires, en fait c'est tout un ensemble de pratiques violentes considérées comme éducatives et donc acceptables envers les enfants en France aujourd'hui. Parce que je tiens à préciser aussi que ça change d'un pays à l'autre et ça change aussi d'une époque à l'autre. Mais typiquement aujourd'hui, il est assez commun de voir des adultes avoir des pratiques violentes envers les enfants, que ce soit des punitions corporelles, par exemple la fessée, la gifle, le pincement. Ça peut être aussi des violences verbales, crier sur un enfant, qu'il y ait des menaces qui puissent sortir, des insultes, voire des humiliations et des moqueries. Et ça peut être aussi des punitions psychologiques, comme du chantage affectif, de l'isolement forcé ou alors du rejet émotionnel. Et en fait, ces pratiques-là, elles sont utilisées pour, entre guillemets, discipliner l'enfant. Et moi, ça me renvoie fort à la vision de l'enfant, comme le dit Marion Quercq, donc qui est une autrice française, mais qui a passé beaucoup de temps en Suède, où en Suède, il y a vraiment tout un paradigme autour de comment les adultes interagissent envers les enfants. Et il y a ce qu'elle appelle la culture de la confiance. C'est-à-dire qu'en Suède, depuis quelques dizaines d'années maintenant, il y a vraiment les violences, tout type de violence qui est vraiment interdit par la loi, et c'est dans la Constitution, enfin, il y avait vraiment eu quelque chose en commun. Un virage à 180 degrés qui a été opéré par la politique suédoise et donc dans la culture aussi. Et donc, il y a tout ce mouvement de volonté de comprendre l'enfant, de comprendre comment il fonctionne et vraiment de cultiver au sein de la société, et donc entre adultes, vraiment cette culture de la confiance envers les enfants versus ce qu'elle appelle la culture de la méfiance, en fait, en France. Et donc, pour recontextualiser, effectivement, en France, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'accompagnement pour les adultes, comment se comporter avec les enfants et comment aussi prendre soin de soi quand on est en interaction avec les enfants, parce que c'est clairement très demandeur d'être en interaction avec les enfants. Et ça peut nous amener à des endroits où on se sent dans des impasses. Et comme on est dans une impasse, et ben, du coup, c'est la violence, en fait, qui sort un peu comme réflexe, sans qu'on ait en fait forcément envie que ça se passe comme ça, mais en fait c'est bien souvent d'ailleurs, il y a vraiment c'est... Et en même temps tout ça, ces comportements un peu réflexes, c'est soutenu par le fait qu'en France, la plupart des personnes ne voient pas de problème au fait de « ah oui, mais une petite gifle de temps en temps, une petite fessée, une petite claque, moi ça... » Voilà, on peut entendre souvent hein, « moi ça m'a forgée, moi j'en suis pas morte ». Et donc c'est tout ça en fait que Marion Quercq elle dénonce dans son livre, de dire bah, en fait tout ça c'est un paradigme, c'est une grande piscine dans laquelle on baigne en France, et c'est pour ça je pense aussi que c'est aussi dur de nager à contre-courant quand on veut du coup ne pas spécialement jouer le jeu aussi de ces violences éducatives ordinaires, parce que encore une fois la plupart du temps elles sont vraiment acceptées comme vues comme éducatives.
Oui, mais ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il peut à la fois y avoir quelque chose de volontaire, c'est-à-dire que ça a une visée éducative, on se dit quelque part c'est bon pour mon enfant.
Exactement, oui.
Et quelque chose d'absolument pas volontaire, qui serait plutôt de l'ordre du réflexe qu'on maîtrise pas, en fait, vis-à-vis d'un enfant qui nous fait péter les plombs, entre guillemets.
Ouais, complètement. Et comme il n'y a pas de conscience sur ça et qu'il n'y a pas de volonté politique et sociétale derrière, bah, en fait, c'est qu'on est un peu livré à nous-mêmes, quoi. Du coup, moi j'avais envie aussi de vous partager les conséquences quand même que ces violences éducatives ordinaires, elles peuvent avoir sur l'enfant et donc sur aussi l'adulte que deviendra l'enfant, parce que il y a notamment, je vous invite à aller le consulter si ça vous dit, il y a le baromètre des violences éducatives ordinaires là qui est sorti, je vous mettrai le lien dans les ressources. Mais en tout cas, c'est vrai qu'un enfant qui aurait vécu des violences éducatives ordinaires dans son enfance va, en étant enfant et plus tard, avoir plus de chances d'avoir une faible estime de lui ou d'elle-même, et la confiance en soi aussi en prend un coup. Donc l'estime, je rappelle, c'est la valeur qu'on se donne, et la confiance en soi, c'est la confiance qu'on a à faire les choses, justement, à se dire « Ok, je... Par exemple, je ne sais pas faire ça, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. J'ai confiance dans le fait que, voilà, que j'ai les ressources, etc. » Ça peut aussi créer du stress chronique, de l'anxiété, des tendances dépressives. Voilà, donc déjà, chez les enfants, ça peut générer aussi des difficultés, notamment à l'école, des difficultés d'attention, enfin, pas mal de, voilà, de troubles aussi de la concentration. Et donc, bah, plus tard aussi, ça peut générer ça et faire que ça s'amplifie. Ça fait aussi que si, en tant qu'adulte, en tant que parent, on a des difficultés à exprimer nos émotions et que, par exemple, tout sort sous le coup de la colère, et bah, ça fait que plus tard, potentiellement, l'enfant, et bah, c'est la même chose qui se passe pour lui. Et donc, aussi dans une sorte de la gestion des émotions et la gestion de conflits constructifs, bah, en fait, juste ça n'existe pas, ce n'est pas accessible. Il faut savoir qu'il y a un cycle de violence intergénérationnelle. Donc, c'est-à-dire que, bien souvent, si nous-mêmes, on a vécu des violences, et encore une fois, bien sûr qu'on en a vécu parce que, encore une fois, dans le paradigme sociétal, dans notre inconscient collectif en France, c'est totalement induit, c'est totalement normal. Du coup, il y a de grandes chances que nous-mêmes, en étant adultes, en étant parents, eh ben, on reproduise en fait ces comportements quand on est adulte. Et en fait, bah, tant qu'on ne casse pas ce cycle, potentiellement, ça perdure, quoi. Et j'ai envie de dire, à une échelle un peu plus globale, l'enfant qui vit ces violences, eh ben, il ne va pas avoir confiance en l'adulte, que ce soit en l'adulte parent, mais aussi en adulte, peu importe quel adulte. Et donc, ça va vraiment cultiver un sentiment, en tout cas un climat de peur, de ressentiment, de crainte, alors que, bah, c'est toujours dans un monde idéal, mais pour que l'enfant il puisse s'épanouir et se sentir bien, l'idéal, c'est qu'il se sente compris, qu'il se sente accueilli comme il est. Et donc, ça peut aussi faire que l'enfant qui se retrouve sans ressources, il n'ose pas, parce que de toute façon, les enfants n'ont pas ou peu de ressources, quoi qu'il arrive, mais du coup, qu'il n'ose pas aller vers des adultes pour justement demander de l'aide. Parce qu'il va tirer la conclusion que de toute façon, il ne peut pas compter sur les adultes et que du coup, il faut qu'il se débrouille par lui-même. Et après, bah, ça vient s'ancrer dans l'inconscient et ça ressort aussi plus tard, voilà, à l'âge adulte. Et moi, ce qui m'a assez édifiée, c'est que j'ai découvert le violentomètre, qui est un outil donc, pour mesurer, et faire de la, enfin, mesurer les violences et faire de la prévention pour les violences faites aux... Alors, c'est dit aux jeunes femmes, mais j'ai envie de dire aux femmes tout court. Et du coup, aux enfants, qui sont aussi des êtres, pour moi, vulnérables, au même titre que les femmes dans ce modèle sociétal dans lequel on est aujourd'hui. Et typiquement, j'étais surprise de voir qu'en fait, il y a des comportements qui sont... plutôt commun d'adultes envers des enfants qui se situe dans le violentomètre, dans la couleur orange-rouge, et donc dans la, typiquement c'est étiqueté violence. Typiquement, ignorer la personne les jours où on est en colère, ça peut arriver quand on est adulte, et bah, du coup on est débordé par ses émotions, soit, mais du coup on vient ignorer l'enfant. Faire du chantage si on refuse de faire quelque chose. Ça, c'est assez commun. Rabaisser les opinions, les projets. Donc ça, on en vient à de la moquerie aussi, de la moquerie en public. Voilà, des insultes. Péter les plombs quand, quand une personne fait quelque chose, enfin un enfant en tout cas fait quelque chose qui lui déplaît, etc. etc. Et moi, je trouvais ça voilà, assez finalement... dommage qu'il n'y ait pas ce violentomètre aussi concernant les enfants. C'est chouette qu'aujourd'hui il y ait une visibilisation et une, comment dire, une sensibilisation des violences, des comportements violents. Et en même temps, je vois que souvent les enfants, en fait, ils sont laissés pour compte. Et bon, moi en tout cas, je sais que ça me touche particulièrement et je trouve ça dommage. Et d'où aussi l'objet de la chronique ce matin.
Oui, la société va juger finalement que c'est beaucoup plus acceptable un même comportement vis-à-vis d'un enfant que vis-à-vis d'une personne adulte.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous donner des petits exemples en fait de choses qu'on peut faire. Hein. Et encore une fois, pour moi, l'idée de cette chronique, c'est pas de culpabiliser, de se dire ah vraiment, je suis un mauvais parent, je suis un mauvais adulte, mais c'est pour justement en fait pouvoir se rendre compte, mettre de la clarté sur certains comportements et venir se questionner, peut-être réajuster. Et voir si on a du mal à réajuster, comment on peut se faire accompagner en thérapie ou autre pour justement en fait dire Parce que forcément que si nous on a vécu en fait des violences en étant enfant, c'est il y a de grandes chances qu'on les perpétue. Donc c'est voilà, l'idée c'est pas de se dire je suis complètement défaillante, j'y arrive pas, mais vraiment de se dire prendre conscience d'avoir comme un point de départ pour après pouvoir cheminer.
Oui, si tu me permets, du coup, j'aimerais juste nuancer un tout petit peu et peut-être rajouter que, en tout cas, si on regarde du point de vue du trauma, le trauma n'est pas dans l'événement, j'aimerais le rappeler aux parents, mais le trauma est vraiment dans ce qui va rester dans le système de l'enfant. Et en fait, on voit qu'à partir du moment où il y a un bon contexte, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de soutien, d'écoute, qu'il y a de la réparation, en fait, il n'y a pas de traces. Donc ça, c'est aussi très important, je trouve, pour enlever cette culpabilité qui pourrait figer le parent et qui pourrait aller à contre-courant de ce que tu souhaites finalement, Claire. C'est de dire, en fait, on n'a pas à tout faire bien, on n'a pas à tout faire parfaitement, mais plutôt de voir comment on peut se remettre en lien. Et ça, ça se passe dans la durée aussi. Voilà, j'avais juste envie de rajouter ça.
Oui, quelque part, c'est pas parce qu'on va dire quelque chose devant son enfant sans même s'en rendre compte qu'il va être perçu par l'enfant comme une moquerie qu'ensuite, par exemple, on peut pas prendre conscience que bah, ça l'a touché, qu'on peut s'excuser éventuellement et réparer quelque part ce comportement qu'on a eu un peu malgré nous.
Ouais. Exactement.
Et des fois, en même temps, on n'est pas en capacité de faire ce pas-là, soit parce qu'on s'en rend pas compte, soit parce qu'on sait pas comment faire. Donc effectivement... Oui, l'idée pour moi, c'est d'éclairer, de se dire en fait qu'est-ce qui pourrait être... problématique et qu'est-ce que je peux aussi moi, enfin je veux dire c'est aussi ma responsabilité en tant qu'adulte de me rééduquer d'une certaine manière, de mettre du choix aussi, comment je parle, comment j'interagis, comment, etc. Et du coup voilà, moi j'avais envie de vous parler de ces petits comportements fréquents mais qui peuvent être vécus comme une violence chez les enfants, notamment le non-respect du consentement quand on dit ah va faire un bisou à tati ou va t'asseoir, va faire un câlin à papy, alors que l'enfant n'a juste pas envie. Aussi prendre un enfant, l'asseoir sur ses genoux, ou bien forcer un enfant à partager un jouet alors que quand on voit que c'est un gros sujet pour lui et qu'il a vraiment pas envie. Voilà, le non-respect du consentement. Peut y avoir aussi le non-respect du droit à l'image, et ça on le voit beaucoup aujourd'hui avec des photos, des vidéos qui sont publiées des enfants, notamment sur les réseaux sociaux, où en fait, clairement, les enfants, ils ne prennent pas la mesure de ce que c'est, ils ne peuvent pas, en fait. Il y a aussi la non-écoute ou non-respect de l'écoute du corps, par exemple, quand un enfant dit qu'il n'a plus faim, ou qu'il n'aime pas tel ou tel aliment, ou par exemple, qu'il a assez chaud, qu'il a assez froid, et que potentiellement, en tant qu'adulte, on dit « mais non, je sais mieux que lui ». Ça peut être ça aussi, ça peut être aussi de... juger des envies de divertissement qu'ont nos enfants, par exemple un petit garçon qui aurait envie de jouer à la poupée ou une petite fille qui aurait envie de jouer au tracteur et d'émettre des jugements ou des remarques ou dire bah non c'est pas possible, c'est pas pour les filles, c'est pas pour les garçons. Et notamment dans aussi la manière dont on communique, où bien souvent, et moi je le vois, je suis pas maman, mais j'interagis pas mal avec les enfants, et ben si je suis fatiguée, irritée, il y a de la colère qui est là, et donc comment je peux faire pour prendre soin de ça aussi en amont, pour éviter que ça déborde sur l'enfant. Et effectivement, si ça déborde sur l'enfant, revenir vers lui, m'expliquer, m'excuser, etc., etc. Comme tu disais, Stéphanie, enfin de aussi... après coup, prendre soin un peu, c'est comme le SAV, quoi, ou le de l'événement qui a pu se produire. Ce qu'on voit aussi pas mal, en tout cas moi, ce que je peux observer, c'est parfois c'est difficile de respecter la temporalité des enfants, parce que les enfants, ils ont leur temporalité qui est plus longue, plus lente, notamment dans les temps de repas ou les temps de quand c'est l'heure du bain. Et je trouve ça, c'est pas aidant, parce que aujourd'hui on est dans une société où il faut aller vite, où tout s'enchaîne, où il y a des horaires avec l'école, et donc ça c'est très difficile. Mais les enfants, ils ont pas conscience de ça, et en fait ils sont dans leur propre temporalité. Il y a aussi parfois, on peut se faire happer, notamment notre présence peut se faire happer par exemple par notre téléphone, et donc les enfants qui peuvent être là, qui peuvent avoir envie de partager des choses, et puis moi je l'observe aussi entre adultes, hein, mais je veux dire voilà, les enfants ils sont dans l'instant, ils ont envie de partager, ils ont envie d'être en interaction, et donc comment on peut peut-être aussi verbaliser tout simplement, dire en fait là je suis pas dispo, mais plutôt que d'être juste absorbé par le téléphone et d'ignorer l'enfant parce qu'on est absorbé par son téléphone. Et puis il y a aussi toute cette notion, voilà, le soin des émotions, en fait, comment on accueille ou pas les émotions d'un enfant, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère. Et pareil, ça peut être très genré. Moi, j'entends encore souvent, maintenant, pleure pas, t'es un petit garçon, t'es fort. Et donc voilà, comment on peut s'éduquer aussi en tant qu'adulte à notre propre rapport à nos émotions pour augmenter notre capacité à accueillir en fait les enfants dans leurs émotions qui sont souvent très intenses et qui, voilà, qui peuvent venir nous chambouler très fort. Et en même temps, c'est vrai que en tant qu'adulte, pour moi en tout cas, c'est ma responsabilité de m'autonomiser et de m'ancrer, trouver une forme d'ancrage dans comment je traverse mes émotions, parce qu'après, comme ça, l'enfant, je vais pouvoir être l'ancre en fait qui va permettre à l'enfant de pouvoir lui traverser ses émotions. Et que c'est, en tout cas, l'idée, ce n'est pas que ce soit inversé, que les responsabilités soient inversées, parce que Marion Quercq, ce dont elle parle aussi, c'est que en France, il y a encore beaucoup cette responsabilité sur l'enfant. Oh, tu m'énerves, oh, tu m'as mise en colère, oh. Alors qu'en fait, l'enfant, il vit juste sa vie d'enfant, quoi. Il n'a pas de conscience. Même s'il a par exemple tel ou tel comportement, il n'en fait pas exprès. Il n'en fait pas exprès pour nous énerver, il n'en fait pas exprès pour. Voilà. Et donc, c'est comment aussi on peut mettre de la lumière sur ces réflexes qu'on a de jugement, ou en tout cas de croyance envers les enfants, et comment se dire. Et si c'était pas ça, en fait, qui se passait pour l'enfant? Et si, du coup, ça pouvait, moi aussi, changer mon monde intérieur en tant qu'adulte quand il se passe tel ou tel événement?
J'ai l'impression, finalement, que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses qui se jouent en termes de communication avec l'enfant, parce que, finalement, on peut pas être des parents parfaits dans nos comportements, ou même, parfois, on a quand même des horaires à respecter, par exemple, ou on peut pas laisser sortir son enfant en short et en t-shirt alors qu'on est en plein hiver, ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans le fait de le dire à l'enfant, de respecter quelque part ce que lui va vivre ou nous dire.
Ouais.
Mais ensuite, voilà, d'appliquer quand même la réalité de la vie quotidienne.
Complètement. Bah, ça demande beaucoup d'explicitation, de verbalisation. C'est vrai. Hein. Et en même temps, je vois que moi, je le pratique dans les temps où je suis en interaction avec les enfants et que ça fonctionne, en fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Mais en même temps, normal. Enfin, si moi... Enfin, je sais pas, une autre personne venait et par exemple me mettait un manteau sur le dos, je serais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, ne serait-ce que verbaliser, dire, pas maintenant c'est l'heure de sortir, donc je vais te mettre ton manteau. Bah,
ça change tout, finalement. Ouais.
Et oui, donc c'est comment on peut dire, ok, si je me mets à la place de l'enfant, en fait, c'est d'une certaine manière normal, quoi. Et du coup, effectivement, pour terminer, j'avais envie de partager quelques ressources qui peuvent vous aider dans ce chemin qu'est d'éclairer nos comportements qu'on a en tant qu'adulte envers les enfants. Et voilà, des outils. Déjà, il faut savoir que les enfants, ils fonctionnent vraiment par mimétisme. Donc, c'est-à-dire que si je leur demande d'être calme alors que moi-même, je pète un câble de l'intérieur, voire de l'extérieur, bah, ça ne va pas marcher. Si je lui dis mange tes légumes alors que moi-même je déteste les légumes et que j'en mange jamais, bah en fait il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc c'est vraiment voilà cette idée d'incarner ce que nous voulons transmettre, ou alors de lâcher prise potentiellement sur les choses où en fait nous-mêmes on n'est pas en capacité d'incarner, donc de pas exiger de l'enfant que il ou elle le fasse. Il y a aussi toutes ces méthodes, ce qu'on appelle d'éducation alternative. Montessori, Freinet, qui sont en fait de l'apprentissage par l'expérience plutôt que par la contrainte, qui vise l'autonomie, la confiance en l'enfant, poser un cadre sécurisant basé sur un respect mutuel. Et en même temps, ces outils-là, pour moi, et pour aussi Marion Quercq, c'est le discours qu'elle a, c'est, ça reste des outils si c'est pas vraiment incarné, et si c'est pas vraiment aussi pleinement... Si la philosophie derrière, elle est pas comprise pleinement, et elle est pas prise à bras-le-corps. Et donc, c'est pas l'idée de juste appliquer bêtement des outils, mais c'est de revoir, en fait, tout un paradigme de comment se positionne l'adulte par rapport à l'enfant. Et donc, mais voilà, je vous invite vraiment à lire son livre, ou à aller voir. Elle a un compte Instagram aussi où elle partage beaucoup. C'est vraiment très apprenant. Et puis, en termes de communication, alors moi, ce qui m'a beaucoup aidée, j'en parle assez souvent, c'est la communication non violente. Donc, participer à des stages pour mettre justement de la lumière sur comment je communique, comment j'apprends à communiquer, comment je développe mon empathie envers moi-même et aussi envers l'autre et donc envers l'enfant. Comment en fait je rentre dans le monde de l'enfant aussi, j'apprends à l'écouter vraiment. Comment je peux aussi reconnaître mes besoins et du coup reconnaître les besoins chez l'enfant. Comment je peux aussi résoudre les conflits Voilà. Et pour moi, c'est l'art, en fait, l'art du lien, l'art de la communication, l'art de la relation. Ça peut être soutenu par la communication non violente, mais aussi voilà, par d'autres outils. Je ne sais pas si tu as envie de partager, Stéphane, d'autres...
Sur les outils de parentalité
Oui.
Bah moi, j'enverrais plutôt à la chronique sur la pression parentale, justement, sur ce sujet, parce que pour moi, justement, s'enlever de la pression, ça va être un outil en soi, déjà, pour retrouver du lien avec son enfant. Voilà.
Super. Merci donc pour vos pistes pour sortir donc de ces violences éducatives ordinaires qu'on appelle les VEO, donc envers les enfants, qui faisaient l'objet de la chronique de Claire aujourd'hui dans Osons l'intime. Merci donc à toutes les deux, Claire et Stéphanie, membres du collectif Féminin Naissance, Royan-Vercors, et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Pour de prochaines chroniques Osons l'intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance, Royan-Vercors, à l'adresse mail suivante féminin-naissance@gmail.com.